Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Les vraies voix sur Sud Radio et des vraies voix en mode américaine, puisque les élections aux États-Unis ont eu lieu cette semaine. Et toutes les vraies voix, oui, toutes, sans exception, ont quelque chose de star d'Hollywood. Et vous allez voir immédiatement que la ressemblance est flagrante. On va écouter leur voix en version originale. Et vous allez essayer de deviner les vraies voix. Qui est-ce ? On commence par ceci.
Once more, I repeat, if for any reason we fail to hit our drop zones, move north by east. North by east.
C'est Est-ce dur, que vous reconnaissez la voix ? If you fall out of, si vous tombez hors de la zone d'atterrissage, n'allez pas vers l'est, n'allez pas vers l'est. Ça vous rappelle pas un film ?
Rien du tout.
Lieutenant-colonel Benjamin Andervoort. C'était John Wayne dans Le jour le plus long, oui, parce qu'avec son gros fusil, toujours prêt à tirer sur tout ce qui bouge, il est le John Wayne des vraies voix, Philippe Bilger. Bonjour Philippe.
Mon Dieu, j'adore John Wayne, mais je ne pensais pas être comparé à lui.
Oh bah c'est flatteur.
Tout arrive, Philippe, vous voyez.
Et vous savez, avec Jamel, on vous imaginait commandant les parachutistes le 6 juin 1944, on disait que c'était hyper crédible.
Oui, très.
Ah bah, vous n'avez pas l'air convaincu.
Mais Philippe, vous oubliez que je n'ai aucun courage physique.
Oui, mais vous avez une autorité naturelle qui surpasse tout, Philippe.
Mais Caroline, je vous revaudrai ça.
Second son. The light switch is right here somewhere, if my memory doesn't fail me. Avec ses cheveux bruns, sa plastique irréprochable et sa voix de cinéma, elle est là. C'est qui ?
Ah là là, c'est vous. Ah, une posez des cols terribles.
Une brune ?
Oui.
Allez, je vous aide. Chloé et Caroline.
Non, mais il y en a deux. C'est la Rita Hayworth des vraies voix, Caroline Grima. Nouveau son, c'était dans Gilda comme film. You're the worst kind there is, an intellectual snob. You made up your mind awfully young, it seems to me. Elle a aussi des cheveux bruns longs, une plastique irréprochable et une voix de cinéma. Vous avez reconnu ?
Mais c'est un vieux film.
Oui, j'allais dire, elle est beaucoup plus vieille que Chloé.
C'est la Catherine Hepburn des vraies voix, Chloé Navigant. Tiens, il vient de rentrer dans le studio. On écoute ceci. You believe what you want. You work your side of the street, and I'll work mine. Vous avez reconnu ? Allez, je vous aide. Il est mort en 1980, un acteur mythique d'Hollywood.
On n'est pas dans la jeune génération, là, quand même, pour nous aider.
Avec ses cheveux blonds, toujours courts, et sa manière de piloter sa Renault Modus, comme Frank Bullitt pilotait sa Ford Mustang. C'est le Steve McQueen des vraies voix. Jean-Marie Bordry. Oui. On continue. Your life. What's that about taking it? Vous avez reconnu, ça, c'est très récent.
Mais c'est très court.
Oui.
On peut réécouter une deuxième fois.
Allez. Bon, ben, on peut pas.
On peut pas.
Je vous aide. What's that about taking it? Avec sa boule à zéro et son sourire signalé.
Bruce Willis ?
Non. Et son, il est.
Oui. Non.
Et son sourire signale double fluor, c'est le Jason Statham des vraies voix. Jamel, à la réalisation. Et enfin, le dernier. Oh yeah, next week I'm supposed to record, I reckon. Ça vous dit quelque chose ? Ah, le Louis de Funès américain.
Louis de Funès américain.
Jerry Lewis, oui, avec son humour que toute la rédaction de Sud Radio adore, c'est le Jerry Lewis des vraies voix, Emmanuel au standard. Alors les vraies voix, vous sentez bien en star d'Hollywood ?
Ça claque quand même. Hein.
Ah, c'est pas mal, oui.
Ah, ça claque, hein, ça claque. Allez, à 17h30, notre premier débat. Faut-il interdire la vente à distance des produits non essentiels ? Vraie question. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un produit non essentiel et un produit essentiel ? À 17h45, notre second débat. Faut-il confiner uniquement les personnes à risque ? Vraie question, le gouvernement est en train d'y réfléchir, l'info est tombée cette nuit. Enfin, à 18h30, notre grand débat, USA, les médias et les réseaux sociaux ont-ils voulu faire perdre Trump ? Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826-300-300. Et c'est parti pour le tour de table de l'actualité.
Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine ?
Je vais vous raconter une histoire pas banale.
Et vous, vous me racontez pas votre petite journée ?
On a assez perdu le temps comme ça.
Le tour de table
de l'actualité.
Et Caroline Grima, notre avocate de Chic et Choc, voulait parler des minutes de silence non respectées dans les collèges et lycées français. Mais on a un témoignage. Nous sommes en compagnie de Jade, professeure de collège en Île-de-France. Bonjour Jade.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous voulez témoigner parce que les minutes de silence et les propos qui sont pour le moins choquants, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça vous est arrivé, vous, dans votre classe, dès le mois de septembre, au moment du procès Charlie ?
En effet, ça m'est arrivé dès le mois de septembre. On a eu des élèves qui se sont exprimés en disant qu'ils étaient en faveur des terroristes, qu'ils trouvaient ça normal que Charlie Hebdo ait subi ce sort, et d'autres propos de ce genre.
Et on va dire rebelote lorsque Mila, on se rappelle de la jeune Mila, qui a été vraiment harcelée sur les réseaux sociaux l'hiver dernier, est revenue bien malgré elle dans la une de l'actualité, puisqu'elle était en vacances à Malte et qu'elle a été reconnue. Et là, les propos étaient encore pires, surtout tenus parfois par des filles. Écoutez bien.
Oui, donc dans la classe, ça s'est passé en cours de français. Les élèves ont dit que c'était normal qu'elle ait des menaces de mort, qu'il fallait aller la tuer, aller la violer et y aller en groupe. Donc là, il y avait apologie du terrorisme et en plus de ça, apologie du viol.
Et il y a eu un problème, on peut dire, dans votre collège, on ne peut pas dire que la direction... Alors, vous avez prévenu les autorités parce qu'il y a une cellule laïcité et religion, vous l'avez prévenu mi-septembre, c'est ça ?
Exactement, il y a une cellule, une équipe laïcité et fait religieux qui existe, qui est mise en place. On nous dit en ce moment que d'ailleurs on peut facilement contacter cette cellule et faire des fiches de signalement pour qu'ils interviennent rapidement et nous donnent des solutions. Or, les faits se sont passés aux alentours du 15 septembre et ils ne sont venus que là le 3 novembre nous voir. Un mois et demi plus tard et on n'a toujours pas de solutions qui nous ont été proposées.
Donc vous êtes totalement abandonné par votre hiérarchie ?
Oui, au niveau académique et au niveau national, on se sent abandonné et puis on a l'impression qu'il y a des effets d'annonce dans les médias où on dit que les professeurs ont beaucoup de ressources pour pouvoir faire face et en fait, derrière, on a l'impression que c'est pas du tout le cas.
Et derrière ça, il s'est passé quelque chose d'assez paradoxal pour la minute de silence en hommage à Samuel Paty à la rentrée d'il y a quelques jours.
Tout à fait. En fait, la seule chose qui se soit passée dans notre établissement, en tout cas, j'entends, c'est la minute de silence. C'est-à-dire que on n'a pas eu le temps de s'organiser pour préparer une discussion avec les élèves, justement, pour expliquer les faits et désamorcer les tensions. Donc, on voulait avoir un temps de préparation entre professeurs pour savoir s'adresser aux élèves, parce que c'est pas facile. On n'est pas particulièrement formé à s'adresser aux élèves, en tout cas pour la laïcité, pour ce genre de questions, pour le terrorisme. Et cette demande de préparation a été ajournée. Et aujourd'hui, donc vendredi 6 novembre, on n'a toujours pas de date pour cette préparation. Donc, la consigne du chef d'établissement était de faire la minute de silence. Et c'est tout. Donc on n'a pas lu la lettre de Jean Jaurès et on n'a pas pu parler aux élèves de ce qui s'était passé alors qu'on avait des élèves en demande.
Jade, restez avec nous à faire réagir nos vraies voix. Caroline Grima, c'était votre tour de table, vous vouliez parler des minutes de silence.
Absolument, oui, je voulais réagir par rapport à ce qui avait été annoncé ce matin par Jean-Michel Blanquer, puisqu'il a indiqué, en fonction des remontées qui ont été faites auprès de son ministère, quel était à peu près le nombre d'incidents qui avaient eu lieu au niveau de cette minute de silence. On a dénombré, alors c'est un chiffre qui est annoncé par le ministère lui-même, bon, je ne veux pas le remettre en cause, mais on est à hauteur d'environ 400 incidents.
Moi j'avais eu en off 600.
Voilà. Alors, 400 incidents, le ministre avait l'air de s'en féliciter en disant que c'était plutôt négligeable. Moi, je trouve que c'est 400 de trop. Et ah bon. ça me paraît déjà énorme. Et dans le lot, ce qui est encore plus étonnant et ce qui est très inquiétant, c'est que la proportion la plus forte d'incidents est intervenue dans les collèges, c'est-à-dire chez des adolescents entre 11 et 14 ans, effectivement. Et on a même un quart des incidents qui sont intervenus dans les écoles primaires, à hauteur d'environ 25%. Donc c'est très très inquiétant parce que ça tombe effectivement sur des esprits qui sont en pleine formation, voire qui sont déjà formatés, ce qui est extrêmement inquiétant. Et ça vient se télescoper de plein fouet avec, moi, cet immense regret que j'ai par rapport à cette journée qui devait être une journée d'hommage. On devait y consacrer plusieurs heures, on devait effectivement parler, comme l'a indiqué cette dame, on devait interagir avec les élèves, et ça s'est transformé dans l'immense majorité des établissements en une seule minute de silence, sans débrief, sans déchocage, si je puis dire, et c'est très regrettable. Très regrettable.
Effectivement, on avait parlé au début de la semaine du fait que ça s'était juste réduit à une seule minute de silence. Alors le professeur qu'on avait eu à l'antenne à ce moment-là nous avait dit que c'était par peur, justement, qu'il y ait des problèmes, des représailles, et quelque part on avait le sentiment qu'ils s'étaient déjà auto-censurés eux-mêmes pour ne pas justement consacrer plus de temps à ce problème-là. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ces élèves justement qui ont créé ces incidents aujourd'hui, quelle sera la conséquence pour eux de leurs actes ?
On va poser la question à Jade. Est-ce qu'il y a des conséquences, les élèves qui ont dit que Mila fallait la tuer après l'avoir violée, etc. Est-ce qu'ils ont eu des sanctions ?
Oui, mais la sanction ne suffit pas. C'est-à-dire que mettre une sanction et poser une heure ou deux heures de colle pour un élève qui a dit ce genre de choses, c'est complètement inutile.
Oui.
Il faut vraiment avoir une discussion.
C'est pas
avec
éviter la signature de ses parents sur le carnet scolaire. C'est pas la même gravité. On est bien d'accord.
Voilà, mais il faut qu'on discute et qu'on leur explique pourquoi on ne peut pas penser comme ça, pourquoi on ne peut pas dire ce genre de choses et comment vivre ensemble, tout simplement. Donc,
et c'est là que vous avez besoin du soutien de votre hiérarchie sur la manière d'aborder les choses, parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on compte beaucoup sur votre imagination, mais qu'au final, on ne vous donne pas beaucoup de clés pour parvenir à cette discussion, justement.
Exactement, on n'a pas beaucoup de ressources et on voulait justement pas trop pousser tout de suite avec les élèves le débat pour éviter la rupture de dialogue et que les élèves aient l'impression qu'il y a une république en face d'eux qui est contre eux et eux en pleine construction d'identité qui serait en opposition justement avec l'école républicaine.
Philippe Bilger.
Non, je vais d'emblée apporter un petit peu de contradiction là-dedans. D'abord, je suis étonné qu'un professeur ait besoin du soutien de sa hiérarchie pour savoir ce qu'on a à dire à des enfants sur la laïcité et l'assassinat de Samuel Paty. Les professeurs sont suffisamment pertinents pour être capables eux-mêmes de savoir ce qu'ils ont à dire, parce que sinon c'est affligeant. Deuxième élément, Philippe, les incidents que Caroline a évoqués, certains sont graves, mais d'autres,
une vingtaine,
tout
a priori.
Même, d'autres, quand je vois à Strasbourg que des enfants de 8 à 9 ans ont été réprimandés, voire interpellés, le nombre d'enfants qui disent des inepties dans la vie et qui, au fond... comme le dit un professeur, si on les incrimine immédiatement, on ne peut même pas discuter avec eux pour leur apporter une contradiction, même légère. Je trouve qu'on est en train de tomber dans un excès.
Non, mais il ne s'agit pas de les incriminer.
Cette apologie de terrorisme, ça devient absurde.
Non, il ne s'agit pas de les incriminer, Caroline, il s'agit simplement de constater l'étendue, entre guillemets, des dégâts sur leurs esprits.
Absolument.
Et sur leur formation personnelle. Ça n'a rien à voir avec de la réprimande. Et Philippe, une fois n'est pas coutume, je ne suis absolument pas d'accord avec vous sur votre première remarque. Je pense au contraire que compte tenu du traumatisme que l'ensemble du corps enseignant vient de vivre par l'intermédiaire de ce meurtre absolument sordide et innommable, il est évidemment indispensable que la hiérarchie s'en mêle. Il est indispensable que la hiérarchie apporte des clés, permette une forme de protection en leur permettant justement de ne pas avoir peur d'aborder ce genre de problématiques. Si on les laisse tout seuls en première ligne, il ne faut pas s'étonner que la minute de silence et que l'hommage soit réduite à portion congrue, parce que comme l'a dit très justement Chloé tout à l'heure, il y a une crainte et c'est absolument normal et on peut la comprendre.
On va donner le mot de la fin à Jade, parce qu'on est pris par le temps, Philippe Bilger. Jade, dans quel état d'esprit est le corps enseignant après l'assassinat de Samuel Paty et après ce qui se passe dans certaines salles de classe?
On est affligé et puis on a surtout l'impression que au-delà de Samuel Paty, c'est l'ensemble de la communauté éducative qui a été attaquée. C'est la liberté d'enseigner sereinement. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord dans les classes, mais on doit pouvoir enseigner librement sans avoir à avoir peur du contenu de nos enseignements.
Et puis peur pour sa vie.
Et puis peur pour sa vie également. Merci beaucoup, Jade, pour votre témoignage. On vous souhaite beaucoup de courage parce qu'on est aux côtés de nos profs, de nos policiers, de nos magistrats, de tous ceux qui sont là pour faire passer le savoir et pour apporter les services publics régaliens dont la France a tant besoin et qui, malheureusement, souvent manquent tant. Vous êtes bien dans Les Vraies Voix. 17h17, Les Vraies Voix avec Philippe Bilger, Caroline Grima et Chloé Nabédian. On se retrouve dans quelques instants.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Et on est en compagnie de La Mémoire, une des voix de Sud Radio. Bonsoir Jacques Pessis, qu'on retrouve tous les week-ends dans
Bonsoir
les pieds d'une vie.
Bonsoir à tous.
Et vous voulez nous parler de la disparition d'un monstre du monde du spectacle en France, Jean-Michel Boris, qui a été longtemps le directeur d'une salle, peut-être la plus mythique d'ailleurs, l'Olympia.
Oui, parce que Jean-Michel Boris, qui nous a quittés ce matin, c'est le dernier géant, le dernier témoin d'une époque. Il faut savoir qu'il était le neveu de Bruno Coquatrix, qu'il a été élevé par Bruno après la mort de son père. Il est devenu machiniste dès le début de l'Olympia. Et il a progressé, il a appris son métier jusqu'à avoir la direction de l'établissement du Music Hall après la mort de Coquatrix en 1979. Et c'était un directeur à l'ancienne qui était là tous les soirs, ce qui n'est plus vraiment le cas des patrons de spectacle aujourd'hui. C'était un directeur
ils
qui
sont RTT,
chaque,
c'est ça,
chaque
Jacques.
Porte. Pardon ?
Ils sont en RTT, c'est pour ça qu'ils viennent plus tous les soirs.
Mais oui, c'est ça. Oui, c'est, mais même quand il y a des RTK, pas de RTT, on a du mal à les trouver tous les soirs. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, Jean-Michel Boris a vécu l'histoire mythique de l'Olympia depuis ses débuts. C'est-à-dire, c'était le temps où on restait trois semaines à l'affiche, où il y avait des premières avec des smokings et des robes longues sur un tapis rouge, et où il y avait une première partie, la vedette américaine, la vedette anglaise, le lever de torchon et des numéros de music hall. Il a vécu les débuts de Becco. Ce qu'on a oublié, c'est que la première journée de Becco en vedette, c'était un spectacle gratuit pour les étudiants. Il y avait 2000 places, il y a eu 5000 personnes qui sont présentées en cassant les fauteuils. Enfin, fauteuils qui avaient été un peu démontés un peu avant, parce que ça permettait de faire une bonne pub. Il a vécu la découverte de Dalida.
Ah oui.
Quand Bruno Coquatrix, Lucien Maurice et Eddie Barclay ont découvert la jeune chanteuse dans un musicorama de l'Olympia, il a suivi le parcours très organisé. À l'époque, on ne faisait pas une vedette du jour au lendemain. Il s'agissait de commencer doucement, discrètement. On passait à Bobino, on signait des contrats 2 ans à l'avance et ça marchait. Il a aussi vécu, Philippe, le jour où Aznavour est devenu une star en chantant « Sur ma vie ». Coquatrix lui avait dit « Il te manque une chanson, si tu l'as fait, tu passes à l'Olympia ». Ça a été son premier triomphe. Et puis, il a vécu les débuts des Beatles.
Ah oui.
Les Beatles, vous les adorez, Philippe, bien
sûr. Ah oui,
sûr.
Bien sûr.
Et ben, le premier concert des Beatles, ça a été un bide à l'Olympia. Quand on voit les images de l'époque, ils se font traiter de jeunes chevelus sans intérêt et ils repartent à Orly après à demi-échec. Et ils vont à New York où ils vont devenir des stars. Donc on a encore tout raté. Et puis Brel. Quand Brel est arrivé en auditionnant l'Olympia, à l'époque, il y avait une petite salle, la salle de billard, eh bien, Coquatrix n'en a pas voulu. Il n'y croyait pas. Et Jean-Michel Boris a insisté. Et Brel est devenu une vedette. Et il a vécu ce soir de 66 où Brel est revenu après 30 minutes d'attente du public en peignoir pour saluer. Vous connaissez l'image, je suppose.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Alors, il y a eu d'autres moments fabuleux. Il y a eu la rentrée de Montand à l'Olympia, qui venait tous les matins répéter à 9h pour être prêt. Il y a eu Johnny en 2000 à l'Olympia. C'était extraordinaire. Et puis, il y a eu le sauvetage de l'Olympia. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais vers 90, la Société Générale décide de mettre un terme au bail et de détruire l'Olympia pour faire un immeuble. Et Jean-Michel Boris, avec sa tante, Paulette Coquatrix, avec Patricia Coquatrix, se mobilisent avec Jacques Lang et ils vont recueillir 5000 signatures et aller voir le président de la Société Générale qui va accepter qu'un nouvel Olympia soit construit dans cet immeuble. Et c'est comme ça qu'il est né en 1997. Et il faut savoir que Jean-Michel Boris, après avoir quitté l'Olympia, eh bien, il continuait à aller voir des spectacles, il rencontrait des jeunes, et il n'y a qu'à voir sur Facebook aujourd'hui les hommages qu'ils sont rendus pour se rendre compte que tous ces jeunes ont un jour ou l'autre eu des conseils qui ont servi et qui, j'espère, permettront à toutes ces générations de continuer à vivre et à transmettre le vrai music hall.
Alors, les vraies voix, vous entendez Jacques Pessis, c'est la lumière du music hall, on peut le dire, c'est une émission qu'il animait, je crois, il y a quelques années. Philippe Bilger, quand vous entendez tout ça, vous avez connu Aristide Bruand même à l'époque.
Ah non, mais c'est beaucoup non, trop mais tôt.
Ne vous laissez pas faire, Philippe, c'est longtemps. Pas possible.
Mais non, mais à ma chère Caroline, c'est tellement prévisible.
Oui, oui, c'est vrai, mais bon.
Mais j'ai connu, en revanche, j'étais lors du premier spectacle des Beatles à l'Olympia. Et ça, c'est devenu chez moi une inconditionnalité absolue pour les Beatles. Et bien sûr, j'ai également bien connu Aristide Briand.
Mais vous êtes brillant, mon cher Philippe. Mais les Beatles, qui avaient quand même avec eux Sylvie Vartan.
Sylvie Vartan en première partie.
Oui,
absolument. Tout à fait.
Oui, absolument. Ah, Et c'est ce qu'il y a de fabuleux, c'est d'avoir Jacques Pessis, parce qu'il les a tous connus. Il a connu les Beatles, Dalida, Johnny, Beco, Aznavour était un de ses amis. D'ailleurs, vu ce que vous avez dit sur les chevelus, ça me rappelle, je vous avais écouté dans Les Clés d'une vie, quand vous aviez raconté qu'un journaliste avait écrit pour le premier concert d'Aznavour, Charles Aznavour, retenez bien ce nom, vous n'en entendrez oui, plus jamais parler.
Vrai,
oui, ça prouve que ce journaliste était vraiment très clairvoyant, mon cher Jacques.
Voilà. Et Brel avait eu un mot fabuleux sur Aznavour. Il a dit « C'est le seul chanteur que je connaisse qui est capable de tenir debout dans une Rolls.
» Merci beaucoup, mon cher Jacques Pessis. Et on vous retrouve demain et dimanche dans Les Clés d'une vie. Dans quelques instants, notre débat. Faut-il interdire la vente à distance des produits non essentiels? Tiens, Les Clés d'une vie, c'est comme Sud Radio. C'est un produit à distance et essentiel. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. She was a day tripper, one way ticket, yeah. It took me so long to find out, and I found out. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Grima, Chloé Nabédian. C'est une proposition du député Les Républicains Arnaud Viala pour limiter toute forme de concurrence déloyale. L'élu veut interdire notamment aux GAFA de vendre des produits non essentiels. Aujourd'hui, des plateformes comme Amazon ou encore Cdiscount, qui est français, sont le dernier recours pour nombre de consommateurs pour trouver ce genre de produits. Les commerces de produits non essentiels étant fermés depuis plusieurs jours à cause du confinement. Par solidarité avec nos commerces et par vrai souci d'équité, faut-il interdire la vente à distance des produits non essentiels? C'est notre premier sujet de débat sur Sud Radio. Et pour le moment, vous êtes, 23% à dire non, il ne faut pas interdire la vente des produits non essentiels à distance. Alors, les vrais voix, vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, bien sûr, le 0826-300-300, Philippe Bilger. Entre les fermetures de magasins, de librairies par exemple, et les rayons fermés, est-ce qu'on n'est pas quelque part un peu dans la France du bon père Ubu?
Pas seulement sur ce plan-là, hein, Philippe, mais je ressens dans l'évaluation faite par nos auditeurs quelque chose qui renvoie à une critique implicite de ce que le pouvoir a décrété essentiel ou non. En ce qui me concerne, j'aurais préféré que le gouvernement réfléchisse davantage à une définition plus fine et moins économique et sociale de ce qu'on appelle essentiel. D'abord, l'adjectif est très ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire pour... On a chacun sa conception de l'essentiel. Enfin, je trouve que le gouvernement a donné à essentiel une définition trop exclusivement matérielle, en éliminant tous les trésors immatériels. Je pense par exemple à la culture et je pense à la foi, puisque ce matin nous avons entendu le Monseigneur Ray de Toulon qui a parlé dans la matinale de Patrick Roger. Donc je trouve qu'essentiel aurait dû être remplacé par un autre terme.
Lequel ?
Ben, fondamental, nécessaire.
Un produit fondamental. Chloé Nabédian, on n'est pas un peu au royaume, on est chez Kafka, si vous préférez Kafka, Alfred Jarry.
Oui, ben c'est vrai que cette notion d'essentiel devient compliquée. Il y a un directeur d'une chaîne de supermarchés, justement, qui a mis très explicitement un produit essentiel, selon le gouvernement, qui était la bouteille de Ricard.
Michel-Édouard Leclerc.
Voilà.
Vous pouvez
et
le citer.
On peut le citer. Et à côté, un livre, on voyait bien que les
de
deux
Mathieu
produits...
De Mathieu Ricard.
Voilà. qui n'étaient pas taxés de la même manière.
Oui.
Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les cavistes ont droit d'ouvrir? Le vin n'est pas non plus un produit essentiel aujourd'hui, la vente d'alcool non plus.
Vous irez expliquer ça dans le Languedoc.
Voilà, j'irai leur dire ça. Mais je pense que la notion d'essentiel, c'était plutôt le fait de se nourrir au quotidien avant tout. Et après, jeter un petit peu le coup de grâce comme ça sur les GAFA, sur ces entreprises qui ont réussi à trouver quand même des idées extrêmement innovantes. Amazon, effectivement, aujourd'hui, a tout balayé sur son passage, mais parce qu'ils ont compris qu'il y avait un vrai besoin.
Pendant le premier confinement mondial, la fortune de Jeff Bezos a augmenté de 22 milliards de dollars.
effectivement.
Ça laisse rêveur.
Ça laisse rêveur.
Vous et avez
ça...
l'air jaloux.
Non, non, pas du tout.
Mais ça montre surtout qu'il a réussi à créer quelque chose, à imaginer un produit qui allait devenir nécessaire aussi pour la population. Et aujourd'hui, il y a quand même les deux tiers des ventes qui se font en ligne. Donc, ce n'est pas non plus une nouveauté. Et je trouve que restreindre effectivement la vente sur ces plein de produits de part des magasins ou des sites en ligne comme Amazon, ce serait vraiment dommage parce que tout le monde, effectivement, a sa propre notion d'essentiel.
Caroline Grima.
Alors, deux remarques. La première, c'est qu'on a challengé les petits commerces au déconfinement, oui. Après le premier confinement. On les a vraiment, on leur a asséné tout un tas de choses à respecter. Ils ont été complètement au rendez-vous.
Oui.
Ils ont été formidables, malgré parfois des adaptations très coûteuses. Parce qu'il ne faut pas croire, mais sur des petites enseignes, des petits commerces comme ça, c'est pas facile et ça représente un coût parfois extrêmement important. Mais évidemment, personne à ce moment-là ne leur a dit « Attention, préparez-vous au numérique. Préparez-vous aux enjeux du numérique parce que le serpent de mer, il est susceptible de réapparaître à tout moment. » Et vous aurez à nouveau la même difficulté.
Pour eux, c'est pas le serpent de mer, c'est le monstre du Loch Ness,
ah bah oui.
Le confinement pour les petits commerçants.
Donc ça, je trouve que c'est assez dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Et puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde a l'air de découvrir le danger que peuvent représenter les GAFA. Enfin, c'est quand même extraordinaire, ça fait des années qu'on met le doigt sur le problème, que personne ne dit rien, sous prétexte que chacun peut faire son petit commerce dans son coin. Et là, maintenant qu'on est en face d'une véritable problématique, on découvre que oui, effectivement, il y a une distorsion de concurrence. Enfin, c'est plus de la distorsion, c'est absolument catastrophique. Et ça, c'est un autre point qui est problématique. Et sur la distinction, la dichotomie qui a été mise en place, je suis d'accord avec ce qu'a dit Philippe Bilger tout à l'heure. Et je pense d'ailleurs même que ce n'est pas un problème de sémantique. C'est surtout qu'en réalité, la question, ce n'est pas tellement les produits essentiels ou non essentiels. La question, c'est surtout de savoir quel endroits sont propices à la propagation du virus et lesquels ne le sont pas. Et si on prend cette distinction-là plutôt que la distinction produit essentiel non essentiel, et bien on aboutit à un résultat radicalement différent. Parce qu'on ne me fera pas croire que les files d'attente qui ont eu lieu à la veille du deuxième confinement, quand il y a eu à nouveau oui. Cette espèce de mouvement de panique,
ah, pour les pâtes, le papier toilette,
n'étaient pas propices à la propagation du virus. Donc voilà, c'est ubu. Effectivement, on est en plein dedans.
Le bon royaume du bon Père Ubu. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Tiens, on parlait du Languedoc pour le vin, direction Bordeaux. Eux aussi,
ben voilà.
Chloé. Le vin est essentiel. Nabil est avec nous. Bonsoir, Nabil.
Bonsoir à tous.
Bienvenue sur Sud Radio. Vous dites qu'il faut interdire les ventes des produits non essentiels, notamment aux GAFA.
Oui, non, mais j'ai bien entendu ce que vous dites. Tous, quoi. Je ne suis pas commerçant, je ne suis pas chef d'entreprise, mais à un moment donné, on est en train de tuer nos commerçants. On est en train de tuer tous nos commerçants. Les gens déjà qui ne touchent pas énormément, on ne peut pas dire que ce soit tous des multimillionnaires ou ne serait-ce que des millionnaires. Hein. Les gens qui arrivent à subvenir à leurs besoins en payant leurs charges et tout ça. Et aujourd'hui, encore une fois, les GAFA, eh ben voilà, on leur laisse faire ce qu'ils veulent. Nous sommes une nation, on a un gouvernement qui rayonne dans le monde entier. Je pense qu'aujourd'hui, au même titre que notre gouvernement est capable de dire stop à telle chose pour le faire rayonner dans le monde entier, il est temps qu'aujourd'hui notre gouvernement se dise stop aux GAFA, stop à ces produits non essentiels et qu'il nous donne la possibilité à nos commerçants, parce qu'ils savent très très bien faire leur boulot, les commerçants. Premier confinement, on était tous 1m50, on rentrait tous un par un, et je doute qu'il y ait beaucoup de cas positifs par rapport à ces commerçants. Tout le monde s'y est mis. Parce que le français, il faut arrêter de le prendre pour un imbécile. Le français est quelqu'un de très docile. Nous sommes dociles. Nous savons respecter les règles. Et c'est pour ça que les choses doivent être pour le bien de ces commerçants, au même titre que les cafés et les restaurateurs.
Nabil, voilà, restez avec nous. Philippe Bilger veut réagir.
Philippe, pardon d'introduire encore un peu de dissidence. Pourquoi est-ce que la lutte... Pourquoi est-ce que la lutte contre les GAFA est si difficile? C'est que vous avez par exemple Amazon qui est formidablement, redoutablement efficace. Vous commandez quelque chose ce soir, vous l'avez demain matin. Alors, je sais bien que...
Oui, mais on porte alors, aussi des avantages...
Est-ce que je peux me permettre, s'il vous plaît, en tant que patriote, en tant que Français, citoyen de mon pays, je veux que mon pays continue à durer... Ça ne me dérange pas d'attendre 3 jours la livraison d'un bouquin.
Oui.
Philippe
Bilger. Vous êtes Nabil, vous êtes formidable. Mais
c'est pour faire vivre mon libraire 1 mois, 2 mois de plus. ça ne me dérange pas carrément, je ne lis pas en fait. Je vais attendre 15 jours.
Et surtout, ouais. Philippe Bilger, il n'y a pas un problème de concurrence déloyale mais... parce que le libraire, il paye des impôts en France,
mais oui, mais...
Amazon, il n'en paye mais pas, c'est... beaucoup moins
c'est
que
c'est tout le problème, fait. Philippe, mais on est en train de se faire dévorer par ce qu'on a promotionné depuis des années. Et le discours de notre auditeur, qui est évidemment parfaitement... enfin, moi, je suis absolument d'accord avec lui. Le problème, c'est que se pose aussi la question, quand on raisonne en juriste, de la faisabilité d'une telle interdiction. Or, le discours de notre auditeur, c'est un discours, entre guillemets, souverainiste, qui est tout à fait entendable, et moi je suis absolument d'accord avec, sauf que le problème c'est qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile, parce qu'on est soumis à la problématique de l'Europe, on est soumis à la problématique de la libre circulation des biens et des services, qui nous dépasse complètement, et Nabil compte beaucoup sur notre gouvernement, mais aujourd'hui notre gouvernement, avec cette problématique-là, il est pieds et poings liés, et il a très peu de marge de manœuvre.
On l'a vu quand Bruno Le Maire a voulu taxer les GAFA, Trump, on parlera de Trump, mais pour d'autres raisons tout à l'heure, a dit c'est hors de question, parce que c'est des boîtes américaines. Chloé Nabédian, vous êtes d'accord avec Nabil ?
Oui, je comprends parfaitement cette position, et bravo d'ailleurs à vous de vouloir attendre plusieurs jours pour pouvoir continuer à faire vivre vos libraires.
Oh, c'est pas comme Philippe Bilger, lui, il faut son bouquin dans les deux heures.
Dans les deux heures qui arrivent. Après, ça ne correspond pas ni aux mêmes besoins, ni à la même population. Là, il y a effectivement une explosion de la demande parce que les petits commerçants sont fermés, mais de façon générale, en général, ceux qui vont de toute façon, chez Amazon, c'est un autre public. Et ceux qui vont chez les petits commerçants, c'est encore un autre public. Et je ne pense pas qu'ils soient forcément en compétition les uns avec les autres. C'est juste que ça ne parle pas à la même population et au même type de personnes. Et ceux qui continuent à aller chez les petits commerçants continueront après. Et je pense que ceux qui le font déjà, eh bien, persistent encore aujourd'hui à commander chez son libraire parce qu'il y a le click and collect qui fonctionne extrêmement bien partout. Et je l'ai encore vu dans Marie, ça marche pour les fleuristes, pour les libraires, pour tous les restaurants qui sont présents. Donc on peut encore les appeler, commander et attendre de recevoir, elle allait le récupérer directement. Donc ça ne s'arrête pas forcément à cause du confinement.
Nabil, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, bien sûr.
Je vous pose une question très indiscrète. Hein. Vous avez déjà commandé par Internet à des sites comme Amazon, par exemple ?
Oui, bien sûr, totalement. Mais plus aujourd'hui. Parce que je sais ce que ça représente vis-à-vis de mon commerçant d'à côté.
Et tiens, je vais poser la question aux vraies voix et on va clôturer le premier débat. Philippe Bilger, mon petit doigt me dit que vous continuez à commander sur Amazon.
Des livres, ouais, bien
sûr. Ah là là, Philippe.
Bon, mais c'est pour ça que je l'ai...
Mais l'un n'est pas incompatible avec l'autre, en fait. Je pense qu'on l'a toujours fait.
Non, mais dès que j'ai une passion, j'ai besoin de l'assouvir.
Oui, bon.
Chloé, c'est Caroline Grimet qui est avocate, elle ne prendra en aucun cas la défense de Philippe Bilger, je me trompe
pas sur ce point-là.
Vous allez faire l'avocate de Philippe Bilger pour
conclure.
Oui,
je vais faire l'avocate de Philippe Bilger parce qu'en fait, je pense que tout le monde fait les deux en fait. On commande à la fois sur Amazon et de temps en temps, on va chez nos petits commerçants. Il ne faut pas croire qu'on ne fait que l'un ou que l'autre et on peut continuer encore à le faire aujourd'hui. Donc Philippe peut continuer à aller chez Amazon et de temps en temps appeler son libraire s'il le souhaite pour quand il a une envie qui est un peu moins pressante.
Vous êtes bien.
Et puis, Chloé, c'est un crime passionnel.
C'est ça.
On a parlé,
vous plaidez l'indulgence,
Caroline,
c'est ça.
On a parlé des envies pressantes de Philippe Bilger. Vous êtes bien sur Sud Radio, 17h42. Faut-il interdire la vente à distance des produits non essentiels ? Vous êtes 77% à dire non dans quelques instants. Le second débat, faut-il confiner uniquement les personnes à risque ? Eh bien, vous êtes 66% à dire oui. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Grima, Chloé Nabédian. Les chiffres ne sont pas bons. Pour ne pas dire mauvais, le nombre de nouveaux cas de Covid s'envole en France et la France devient le pays d'Europe le plus infecté par le virus. La deuxième vague est là et elle est violente. Voilà ce qu'a dit hier Olivier Véran, qui a précisé que le confinement était respecté par les Français. Mais alors pourquoi le virus circule-t-il encore et toujours aussi vite ? Le confinement total est-il la bonne stratégie ? Pas certain. Le gouvernement, ces derniers jours, réfléchirait à confiner seulement les personnes âgées et les personnes à risque. D'où cette question sur Sud Radio. Faut-il confiner uniquement les personnes à risque ? Et pour le moment, vous êtes 67% à dire oui. Et c'est l'heure du duel.
C'est l'heure du duel !
Ça fait peur.
Un duel où l'accusation va se retrouver face à la défense. Ça a un petit côté procès d'assises. Et dans les procès d'assises, la parole est toujours à l'avocat général en premier. Philippe Bilger, c'est à vous.
Alors, mon cher Philippe, je suis tellement vaniteux que j'ai trouvé dommage que Sud Radio ne pose pas la seule question qui vaille. Faut-il confiner Philippe Bilger?
Vous voyez, vous l'êtes déjà, mais, de fait, regardez.
Voilà. Mais plus sérieusement, j'ai l'impression que le gouvernement est en train de réfléchir à une piste qu'on a beaucoup évoquée depuis plusieurs semaines, qui consiste évidemment à isoler les personnes âgées, les personnes fragiles, pour donner plus de latitude à la France plus jeune, à la France active, à la France qui résiste le mieux possible ou le moins mal au fléau sanitaire. Je ne crois pas que ce serait une absurdité de faire ça.
La parole est à la Défense, maître Caroline Grima.
Alors, moi je vais faire un constat qui me semble assez logique. Si vous examinez ce qui se passe actuellement, en réalité, les jeunes sont à l'extérieur, puisque par définition, on les autorise à bénéficier de leur scolarité, à l'exception Absolument. De la partie université, mais en tout cas, les enfants, les adolescents sont dehors tous
Et
les jours.
Et même les crèches, même les bébés.
Voilà. Le travail est possible. Et d'ailleurs, on voit bien, il y a encore eu des statistiques qui sont sorties aujourd'hui pour dire que le télétravail est beaucoup moins spontané et beaucoup moins bien perçu par les salariés pour ce deuxième confinement que pour le premier. Donc en réalité, il y a énormément, une énorme fraction de la population active qui est dehors. Et de fait, quand on met ces deux éléments d'appréciation côte à côte, on s'aperçoit que finalement le confinement des personnes âgées, ben, il est déjà en place d'une certaine façon. Puisque ceux qui ont le moins de possibilités de sortir de façon dérogatoire,
par Zoom, hein.
Oui, ce sont effectivement les personnes âgées. Alors là où il y a plus de difficultés sur une potentielle mise en place de ce système, c'est les personnes dites fragiles et vulnérables. Parce que c'est un petit peu comme quand on parlait tout à l'heure d'essentiel, non essentiel. Oui. À quel moment fixe-t-on la limite? Comment définit-on une personne fragile? Comment définit-on une personne vulnérable? Est-ce que c'est une personne qui a des pré-pathologies? Est-ce que peut-être c'est une personne dont on ignore une pathologie mais qui va la développer postérieurement? C'est très 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 compliqué de fixer une limite. C'est difficile.
La parole là est au juge de paix.
Après
l'avocat général, l'avocat.
Oui. Non, Chloé, moi, d'ailleurs.
Et après on part au 0826-300-300.
Moi je suis d'accord avec Caroline. Effectivement, le confinement finalement des personnes les plus vulnérables est déjà quelque part en place et on le voit effectivement dans la rue tous les jours. Et vous avez raison, dans les entreprises, c'est assez peu respecté finalement cette notion de télétravail. Il suffit de voir dans la rue le nombre de voitures, le nombre de personnes.
Ça roule beaucoup mieux. Ça roule beaucoup mieux. Ah oui, rien à voir.
Bon,
ah
déjà, il
oui.
y a une petite ah oui. évolution.
Mais il y a quand même
alors,
beaucoup de monde, moi, je trouve, hein, malgré tout. Même si ça
alors,
roule mieux, il y a
pas,
beaucoup de monde.
Je témoigne, on n'est pas au niveau de mars-avril.
Non.
Mais je peux vous dire que pour venir le matin, je mets deux fois moins de temps que d'habitude.
Bon, il y a quand même une évolution, mais malgré tout, on n'est pas au niveau de mars. Donc ça signifie Clairement. Quand même qu'une grande partie de la population reste et va en entreprise. Et beaucoup ont eu des attestations de leurs employeurs, d'ailleurs, pour pouvoir s'y rendre facilement. On a cette liberté de pouvoir sortir, effectivement, toujours une heure par jour, à hauteur d'un kilomètre. Donc il y a toujours cette notion de pouvoir sortir. Et finalement, ce sont les associations, ce sont toutes les activités que peuvent aller, notamment les personnes les plus âgées, qui sont là, en revanche, totalement bloquées.
Absolument.
Direction le 0826-300-300, nous avons Florian d'Antony, c'est dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Vous voulez que tout le monde soit confiné ou qu'on fasse à la tête du client?
J'ai pensé à votre question depuis tout à l'heure. Vous êtes trop intelligent pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été développées. Si vous voulez, d'abord, cette possibilité, elle a déjà été évoquée lors du premier confinement.
C'est vrai.
Il y a eu une levée de bouclier tout de suite pour notamment les plus âgés qui ont dit « mais il n'y a aucune raison qu'on soit plus confiné que les autres ». Moi, je pense que véritablement, comme disait l'avocate, qu'en définitive, il y a beaucoup de personnes âgées sont déjà confinées. Et moi, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de dispositions qui sont prises par le gouvernement qui ne sont pas très logiques. Je ne comprends pas pourquoi, si vous voulez, une grande maison de la presse qui fait librairie, dans laquelle toutes les heures il y a au moins 15 personnes, serait moins contaminante qu'une petite librairie qui reçoit 10 personnes toutes les 3 heures. Vous comprenez Évidemment. Le problème ?
C'est certain.
Donc, si vous voulez, moi je ne connais pas non plus. Moi je ne suis pas juriste, donc Philippe Bilger pourra peut-être nous le dire. Mais,
moi je le suis très peu.
Ah bon. Mais je sais
Quelle
pas,
fausse modestie.
D'accord.
Nous,
oui,
nous avons Caroline.
Moi, c'est bien ce que je pense, mais véritablement, est-ce que puisqu'on est dans des temps extraordinaires, on peut pas prendre des dispositions extraordinaires également?
Vraie question. On va donner la parole à Philippe Bilger, comme s'il dit qu'il n'en fait pas, il est un éminent juriste.
Non, mais Philippe, j'ai entendu vraiment avec beaucoup de plaisir ce qu'a dit Caroline, confirmé par Chloé. Juste une question. Est-ce que si on avait décidé de confiner les personnes réellement vulnérables et les personnes âgées, est-ce que le gouvernement aurait perpétré ces absurdités qui vont faire disparaître les restaurants et les petits commerces? Je me demande si là, il n'aurait pas été obligé d'avoir une attitude plus cohérente.
C'est vrai.
Et donc, je vois un argument en ma faveur.
Vraie question. Bah, d'ailleurs, on en redébattra dans les vraies voix sur Sud Radio. Merci beaucoup, Florian D'Antoni. On vous salue amicalement. Verdict, second débat. Faut-il confiner uniquement les personnes à risque? On était à 67. On est passé à 66. Et maintenant, vous êtes 65% à dire oui. Et c'est l'heure de jouer.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Bonsoir Jean-Marie Bordry.
Bonsoir à tous les vraies voix et bonsoir à toutes les vraies voix aussi. Bonsoir à Joseph aussi au 0826-300-300 qui nous appelle du Gard. Salut Joseph.
Oui, bonsoir à tout le monde, ravi d'être avec vous.
Bonsoir écoute, Joseph. On est tous ravis de vous avoir.
Bon, alors moi je suis là pour m'amuser et pour gagner tout ce qu'il y a à gagner.
Alors, exactement, ça tombe très bien.
Je vous conseille de ne pas choisir Philippe Bilger comme coéquipier, je dis ça, je dis rien.
Mais ceci dit, ça tombe très bien.
Vous me donnez le meilleur.
On va voir, c'est vous qui allez le choisir. C'est vous qui allez choisir, Joseph. Vous allez d'abord choisir une de nos trois vraies voix avec laquelle vous allez jouer contre les deux autres, donc Philippe Bilger, Caroline Grima ou Chloé Nabédian.
Ah, je vais jouer avec une dame.
Oui.
Ah.
Mais laquelle?
C'est laquelle la plus charmante sur le papier.
Bah, les deux, là, je vous dire, c'est Rita Hayworth et Catherine Hepburn. Alors,
Allez, c'est bon, on fait cette dame. Allez, hop, on est parti avec.
Bon, mais Rita Hayworth, c'était qui du coup?
C'était Caroline Grima.
Allez, Caroline Grima avec Joseph.
Philippe, on fait l'équipe alors.
Je vais vous poser trois questions. Ce sont sur des informations qui sont vraies. Joseph, c'est vous qui répondez en premier. Ensuite, les vraies voix peuvent se battre si jamais vous n'avez pas la bonne réponse.
Enfin, pas physiquement. Hein.
On y va. Je commence. Qui a dit il y a quelques heures, Joseph, sur une radio concurrente de Sud Radio, de l'ancien président François Hollande que, je cite, « il n'a vraiment rien à foutre en ce moment ». D'après vous, qui a pu dire ça? Réponse numéro 1, Arnaud Montebourg, son ancien ministre qui décidément ne l'aime pas. Réponse numéro 2, Nicolas Sarkozy, l'ancien président qui lui non plus ne l'aime pas.
Non.
Et réponse numéro 3, son ancienne compagne Valérie Trierweiler qui, elle, ne l'aime plus. Ça, c'est clair. D'après vous, Joseph?
Allez, j'ai pas la réponse honnêtement, je prends la 3.
Vous prenez la 3, ben vous avez bien fait mon cher, c'est son ancienne compagne Valérie Trierweiler qui fustigeait les nombreuses sorties médiatiques de François Hollande. Ça fait un point pour vous et pour Caroline, on continue
et
Joseph.
Merci pour ce moment.
Allez, on continue Joseph, je vous emmène aux États-Unis. À quoi un commentateur, ou plutôt un présentateur de la chaîne CNN, a comparé Donald Trump, le présentateur voulait critiquer la volonté du président, de nier sa défaite. À quoi a-t-il comparé Donald Trump? Réponse numéro 1, c'est Joseph qui répond en première. Réponse numéro 1.
Encore?
Oui, toujours.
Réponse
numéro 1, il l'a comparé à un éléphant ivre. Réponse numéro 2, il l'a comparé à une tortue obèse. Réponse numéro 3, il l'a comparé à un facochère enragé. D'après vous, à quoi le présentateur de CNN a comparé Donald Trump, Joseph?
Je me lance à une tortue.
Eh bien, bravo. On écoute la réponse.
C'est un sans faute.
On écoute la réponse. On va écouter le temps que Jamel puisse la faire réécouter, le remettre l'extrait au début. On y va.
See him like an obese turtle on his back, flailing in the hot sun.
En gros, il l'a comparé non pas seulement à une tortue obèse, mais une tortue obèse qui s'agite sur le dos en plein soleil et qui réalise qu'elle a tout perdu, mais qui ne veut pas le reconnaître. C'était pas très gentil. Joseph, bonne nouvelle, vous avez déjà gagné, vous avez 2 points. Mais on continue. Quel homme politique français, tout le monde répond en même temps, y compris les vraies voix, que vous puissiez jouer quand même. Quel homme politique français pourrait annoncer ce week-end sa candidature à la prochaine élection
Mélenchon
présidentielle, bravo.
Oh, elle n'a même pas le temps d'entendre.
C'est moi.
La République, c'est lui, effectivement. Alors, il devrait...
Et j'avais la deuxième, hein.
Mais vous l'aviez, mais c'est dommage.
Ah, mais Chloé, on a gagné.
Et j'avais la première aussi, Philippe.
Vous n'étiez pas Joseph. Vous n'étiez pas Joseph. Ne faites pas votre Donald Trump, Philippe Bilger. Vous avez perdu ce soir. Vous pouvez intenter tous les recours que vous voulez. Joseph, vous êtes toujours là?
Oui, oui, bien sûr.
Mais ça fait 2-1, victoire de Joseph. Bravo à vous, Joseph. Vous allez rester en ligne. Oui. Vous allez retrouver Emmanuel au standard de Sud Radio. Vous allez lui donner votre adresse. On va vous envoyer un quiz Larousse, préservons la planète, avec des questions de Laurent Romeshko. Toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la préservation de la planète, l'environnement, la biodiversité, le changement climatique. Et comme ça, bah, vous pourrez revenir avec nous bah, quand vous voudrez, mon cher Joseph. Merci à vous.
Avec un grand plaisir. Je vous remercie. J'ai jamais rien gagné dans ma vie. Et là, vous voyez,
je vous écoute tous les jours. Et bah, bravo, Joseph. Il faut jouer au loto ce week-end.
Et bah, bravo. Et grâce à Sud Radio, on vous félicite, Joseph. Merci de votre fidélité.
Et on vous embrasse.
Dans, à 18h30, notre grand débat, élection 2020 aux USA. Les médias et les réseaux sociaux ont-ils voulu faire perdre Donald Trump? Vous êtes 92% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826-300-300, les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David.
Des vraies voix en mode américaine aujourd'hui, puisque, on le rappelle, les élections américaines n'ont pas encore donné leur verdict, mais eu lieu cette semaine. Et après, les stars d'Hollywood, les vraies voix, auraient aussi pu être des stars américaines de la chanson. One for the money, two for the show. Three to get ready, and I go, can't go, but don't you step on my blue suede shoe. Avec sa banane, son déhanché et sa manière sensuelle de tripoter son micro, c'est le Elvis Presley des vraies voix, Philippe Bilger.
C'est faux, Philippe.
Ah, ça vous a fait rire, quoi.
Parce que, non, mais ça m'a fait rire parce que le vrai Elvis, et je l'ai entendu chanter hier dans les couloirs du Elvis Presley, c'est Philippe David.
Merci, mon cher Philippe.
L'amour est un oiseau rebelle que rien ne peut t'apprivoiser.
Comme elle chante l'opéra, vous l'avez entendu, et que sa voix est cristalline.
Il lui convient de refuser.
Quel bel organe! C'est la Julia Mijenez, qui est américaine, mais d'origine portoricaine, des vraies voix.
Merci
Caroline Grima.
Merci infiniment.
Comme elle est plus musique moderne et que quand elle chante, il ne pleut pas, même si elle fait la météo sur France Télévisions, c'est la Maria Carré des vraies voix, Chloé Nabeillan.
Oh, merci Philippe.
Il surfe sur les réseaux sociaux en faisant le moonwalk, le Michael Jackson des vraies voix, Jean-Marie Bordry. Il tape sur sa console sur des rythmes de rap, le Eminem des vraies voix, Jamel à la réalisation. Enfin, avec sa libido qui ferait passer John Fitzgerald Kennedy, ancien président des États-Unis, pour un véritable nuque, c'est la sex machine des vraies voix, Manu au standard, alias James Brown. Alors les vraies voix, ça vous va cette présentation?
Oui, c'est parfait. On s'y croirait, hein.
En fait.
Ah oui.
Ah ouais.
Mais non, Philippe, vous êtes vous le vrai Elvis Presley. À 18h30.
Non.
Oui. Ah si, pourquoi?
Non, non.
Ah si. J'ai
non,
vu
non,
vos déhanchés.
À
18h30, notre grand débat, lutte contre le. Non, c'est pas. C'est notre grand débat, pardon. J'ai une faute de frappe. On va parler, bien évidemment, c'est ça. Quand on fait des copier-coller, ça nous arrive. Élection 2020, les médias et les réseaux sociaux ont-ils voulu faire perdre Donald Trump? Ça vote énormément sur Twitter. Et vous êtes 91% à dire oui. Et tout de suite, c'est reparti pour un tour de table de l'actualité.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.
Dans quelques instants, vous pourrez admirer nos plus belles créatures.
Mais vous fumez, monsieur.
C'est aussi peu plausible que lorsque vous me comparez à Rocco Siffredi.
Le tour de table.
De l'actualité.
Ah, oh, Philippe, c'est votre journée, je crois.
C'est fait. Oui, absolument.
Philippe Bilger, je peux vous poser une question très indiscrète avant de vous donner la parole?
Je ne suis pas Rocco Siffredi.
Non, c'était vous. Si vous aviez été acteur, vous auriez préféré être John Wayne, comme dans la première heure, ou Rocco Siffredi, comme vous l'affirmez.
Bah, il n'y a pas de doute. Ah bah John Wayne.
Justement, moi, quand vous disiez il n'y a pas de doute, je pensais à autre chose, bah, n'est-ce pas ?
Mais vous savez, entre Rocco Siffredi et Elvis Presley, tout est affaire de banane à chaque fois.
C'est clair.
En réalité.
Alors, Philippe Bilger, c'est votre tour de table de l'actualité.
Alors,
sur un sujet beaucoup plus sérieux.
Je vais très sérieux et Caroline comprendra évidemment pourquoi je l'ai choisi. Lorsque j'étais aux Assises, j'étais toujours passionné par les ressorts profonds des accusés, presque davantage que par le récit factuel du crime. Mmh. Et en ce qui concerne l'assassin de Nice, j'ai été frappé de constater que le matin des assassinats, il avait été à la mosquée et je me suis interrogé sur ce qui devait advenir dans la tête d'un jeune homme comme cela, qui allait prier à la mosquée le matin et qui était totalement résolu à accomplir le pire dans l'après-midi. Est-ce qu'il a cru que dans cette mosquée, il avait l'injonction dont il rêvait, ou est-ce que c'est un hiatus absolu entre une foi peut-être sincère et l'horreur criminelle qu'il a commise ensuite?
Vraie question, c'est vrai que ça interpelle. Caroline Grima, vous qui êtes avocate, oui, et qui avez fait pas mal de procès d'assises.
Et en règle générale, c'est ce qui nous intéresse effectivement, c'est-à-dire que cet intérêt que vient d'évoquer Philippe, il est partagé par bon nombre d'acteurs judiciaires dans le cadre des cours d'assises, et surtout peut-être des parties civiles. Et c'est vrai que cette question systématiquement qu'on entend avant les procès, ou qu'on entend dans le cadre des enquêtes, lorsqu'on entend les victimes dire « on veut comprendre, on veut savoir ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé dans la tête du meurtrier, de l'assassin,
parce
du terroriste »,
c'est compliqué à savoir.
C'est toujours très 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 compliqué d'apporter une réponse, mais effectivement, les hypothèses que vous posez, Philippe, elles sont tout aussi plausibles l'une que l'autre. J'aurais peut-être tendance à pencher pour la première ouais, hypothèse, et puis une espèce de mouvement de galvanisation lié à cette phase préalable d'introspection, de prière pendant ce passage à la mosquée. C'est très difficile de savoir ce qui a pu se passer dans la tête de cet homme, mais en tout état de cause, quelque chose qui a abouti à une véritable horreur.
Chloé Nabédian.
Effectivement, on s'appose question. C'est vrai que c'est pas du tout mon domaine de prédilection par rapport à Philippe et Caroline, mais on a plutôt la sensation effectivement qu'il est venu dans cette mosquée avant, comme pour dire et faire ressentir à ce qu'il imagine être son Dieu à lui, j'imagine, l'action qu'il va accomplir en son nom, et ensuite partir l'accomplir sans que pour autant la mosquée y soit responsable de quelque façon que ce soit. Je pense qu'il faut quand même vraiment différencier les deux choses, puisque c'était avant tout pour ces terroristes-là un acte pour leur Dieu avant tout.
Mais justement, Philippe Bilger, je vous fais réagir sur un autre acte terroriste qui a eu lieu en France il y a près de 30 ans. C'était à Noël 1994, le détournement de l'Airbus Alger-Paris. Quand les terroristes avaient vu que le GIGN allait intervenir, ils se sont mis à chanter des prières des morts. C'est ce qui a été raconté dans tous les comptes rendus par les passagers au moment où le GIGN donc donnait l'assaut. Et est-ce que vous ne voyez pas quelque part quelque chose de similaire dans ces deux cas?
Oui, une forme de galvanisation.
D'approchant, oui.
Tout à fait, Philippe, d'autant plus qu'au-delà même de cet exemple, je ne cesse pas de m'interroger sur des jeunes gens qui ont été des voyous souvent et qui tout à coup découvrent cette religion et qui non seulement massacrent, ça à la limite on peut en trouver, mais qui acceptent, qui veulent mourir en même temps. Il y a quelque chose d'infiniment mystérieux pour moi.
Caroline Grima, rapidement, ou Chloé, non ? Rien à ajouter ?
On confine au mouvement et au réflexe sectaire. C'est effectivement très difficilement explicable, si ce n'est une forme de galvanisation, mais qui va jusqu'au sacrifice de soi.
Enfin,
c'est ce qui rend d'ailleurs ces personnes si imprévisibles et si difficiles à contrer, finalement.
Absolument.
Parce que prêtes à tout. Et ayant en face d'eux des personnes qui, elles, ont foi en la vie, tiennent à la vie, et n'ont pas ce réflexe et cette folie sacrificielle.
Donc, et parfois sous avec l'aide de drogue, parce que les gens de Daesh qui massacraient les gens étaient souvent sous captagon.
Absolument.
Pour revenir un peu plus en arrière dans le temps, quand les Einsatzgruppen de la SS massacraient des villages entiers de juifs, notamment sur le front de l'Est, ils étaient shootés à la pervitine. Et à la pervitine, il paraît qu'on perd, mais toute inhibition, on peut faire absolument tout et n'importe quoi. Absolument. Les vraies voix, 18h16, le grand débat de 18h30, élection 2020, les médias et les réseaux sociaux ont-ils voulu faire perdre Trump? Vous êtes 91% à dire oui sur Twitter. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Les vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Grima et Chloé Nabédian. Et on prend la direction d'Agde, où des parents s'opposent au port du masque. Alors, Agde, Philippe Bilger connaît très bien le Cap d'Agde depuis que il passe toutes ses vacances là-bas. Où des parents s'opposent au port du masque à l'école pour leurs enfants. Nous sommes en compagnie de Luc Ferrand, un des parents opposés au masque. Luc Ferrand, bonsoir.
Oui, bonsoir. Déjà, il n'y a pas d'opposition. Hein. On n'est pas sur une opposition, on est sur une liberté de choix.
Absolument. Alors, vous avez deux enfants de 6 et 12 ans, si je ne m'abuse.
Tout à fait.
Et vous, ça ne vous pose pas de problème que votre enfant de 12 ans porte un masque, parce qu'il est grand, on va dire ça comme ça. Et par contre, pour votre petite fille de 6 ans, c'est plus problématique.
Oui, au niveau 12 ans, il y a des curseurs qui peuvent comprendre. Après, là aussi, il y a des soucis, mais la loi... Ce qui a déclenché tout ça, enfin le décret, c'est surtout ceux de 6 ans. Voilà, nous, on trouve qu'il y a quand même beaucoup de paramètres qui nous sont inconnus et cette restriction de liberté pour nos enfants nous pose un problème. Un problème pour nous, mais aussi pour les familles extrêmement angoissées, qu'on n'oublie pas. Il y a des familles qui sont reclus et qui ne savent pas quoi faire et on ne se pose pas la question de savoir ces familles-là, dans quelle mesure elles peuvent apprécier cette école avec des gens masqués, des gens qui
sont pas masqués.
Voilà, donc on est plus en interrogation qu'en opposition.
Alors, vous avez lancé, je vais donner la parole aux vraies voix, une page sur les réseaux sociaux qui compte déjà environ 150 membres.
Oui,
sur Facebook, exactement, on peut le citer.
Des mamans qui s'occupent de cet aspect-là. C'est 180 ce soir, elles font le tour des écoles un petit peu pour voir, faire signer une pétition et on comprend bien qu'il y a un besoin d'expression de la part des parents mais aussi des enseignants qui sont un petit peu déboussolés par ces protocoles à respecter avec un manque de formation, est-ce qu'on doit faire ci, est-ce qu'on doit faire ça, c'est pas leur métier, voilà, nous c'est pas notre métier non plus, on n'est pas virologue, on sait pas, donc... On cherche à comprendre ce qu'on pourrait faire.
Chloé Nabédian.
Effectivement, aujourd'hui, on n'a aucun recul justement pour savoir l'impact psychologique que ça peut avoir pour les enfants, cette situation aujourd'hui, les tout petits essentiellement. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une angoisse pour vous en tant que parent ou est-ce que c'est votre petite fille justement qui vous a parlé de la problématique que ça lui pose à elle et c'est là où vous avez peur en fait des conséquences pour son évolution plus tard ?
Luc Ferrand.
Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, ça dépend de certaines familles. Il y a des familles qui sont très, très angoissées et qui sont en reclus chez eux. On se demande ce que les enfants peuvent entendre de la part des parents. Il y a des familles moins angoissées. Nous, on en a discuté avec notre petite fille. On a trouvé des solutions. On essaye de réfléchir à être le moins angoissé possible. Mais effectivement, on ne sait pas à long terme quelles conséquences ça peut avoir et surtout aux familles qui n'ont pas cette écoute des enfants et qui peuvent dans l'urgence imposer avec tout ce qui peut se passer derrière à l'école. Comment vont réagir les maîtresses et les centres maternels? Est-ce qu'il va y avoir des punitions? Est-ce qu'il va y avoir des gestes déplacés? Est-ce que comment l'enfant va percevoir ça? Voilà, ça s'appelle les violences éducatives.
Caroline Griba.
Alors, je trouve que violence éducative, le terme est un peu fort. Je comprends votre questionnement, monsieur. Je trouve que là, on est un petit peu, enfin, on va au-delà de, notamment sur la problématique de la sanction. Je pense quand même que, pour reprendre pour le coup ce que disait Philippe Bilger tout à l'heure, s'agissant du corps enseignant, je les pense suffisamment à même en tout cas sur ce point, c'est une évidence, d'avoir un discours et non pas des sanctions, mais une pédagogie adaptée à la problématique du port du masque. Et puis moi, je pense, alors évidemment, je ne suis pas une spécialiste des pays asiatiques, de leur...
Au collège, il y a des sanctions, je vous compte, parce que ce n'est pas vrai.
Oui, oui, mais enfin, c'est des sanctions. C'est des sanctions, monsieur, mais enfin, ce n'est pas une comparution devant le tribunal. Je pense que, y a, oui, effectivement, c'est des sanctions qui sont de nature pédagogique donc, avant tout. Et encore une fois, je ne suis pas une spécialiste du développement des jeunes enfants dans les pays asiatiques, mais il me semble avoir vu que c'est dans ces pays quelque chose qui est totalement rentré dans les mœurs. Et je ne parle pas forcément de la Chine, parce qu'on me rétorquera, oui, la Chine est une dictature,
pour être allé
forcément,
beaucoup de fois en
etc.
Asie, je veux dire que même dans une... Enfin, ce n'est pas une démocratie, c'est un régime plutôt autoritaire comme la Thaïlande. Vous voyez des gamins qui sont dans la rue, ils marchent en rang, ils sont en uniforme.
Oui.
C'est vraiment quasi militaire.
Et en Corée du Sud, qu'on ne peut pas spécialement qualifier de dictature... Le masque a quand même prouvé son efficacité sur le long terme. Donc, après, il faut mettre en balance les deux. Mais si vos enfants, par exemple, sont amenés à côtoyer leurs grands-parents régulièrement, etc., je pense qu'il y a lieu quand même de s'interroger sur la pertinence du port du masque.
On donne la parole à Philippe Bilger et on donnera le mot de la fin à Luc Ferrand. Philippe Bilger.
Il est évident que cette contrainte considérable n'a pas été prise sans concertation ni information. Il n'empêche, et là, moi-même je suis totalement profane comme Caroline dans ce domaine-là, je me demande si sur un petit enfant de 6 ans, avant d'arriver à l'âge de raison, il ne peut pas... avec ce port du masque obligatoire à l'école, s'il ne peut pas créer des retards, des régressions sur le plan intellectuel et sur le plan du langage. Ça n'est pas éminemment naturel, bien sûr, mais c'est une question que je pose. Je n'ai aucune certitude et je peux comprendre l'inquiétude de certains parents là-dessus, uniquement.
Luc Ferrand, en une minute.
Oui, bah écoutez, on est au cœur de la problématique, c'est l'opposition, des arguments, des uns et des autres. On veut absolument sortir de là, on veut comprendre. On voit tout à fait, c'est la dame et le monsieur ont parlé, on voit tout à fait l'opposition comme Monsieur Jacob qui répond à Monsieur Ferrand. Où est la liberté en France? On n'est pas en Asie, on a une autre culture, une autre façon, on a d'autres moyens. Voilà, nous... On n'est pas sur cette opposition, on veut vivre ensemble. Hein, vous aviez tout à l'heure une émission aussi qui illustrait le vivre ensemble. Je pense qu'on peut tout à fait trouver des solutions, avoir des gens de terrain cohérents, des élus, des maires, des virologues dans chaque région, des directeurs d'ARS, des gens qui sont extrêmement qualifiés pour répondre au mieux à la population. Voilà, donc les enfants, petits-enfants avec le masque, des masques, on peut dire, voilà, des masques qui sont chirurgicaux, des masques qui sont fabriqués par les grands-mères parce que ça rassure avec des petits bisounours dessus. Tout ça, je pense que c'est pas sérieux.
Merci beaucoup, Luc Ferrand, et on salue tous nos auditeurs agatoises et agatois.
Merci.
Dans quelques instants, le grand débat, élection 2020, les médias et les réseaux sociaux ont-ils voulu faire perdre Trump? Ça vote énormément sur Twitter et vous êtes 91% à dire oui. Vous connaissez le numéro, le 0826-300-300, les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Grima, Chloé Nabédian. Alors que le démocrate Joe Biden est très bien parti pour remporter cette élection, Donald Trump crie à la fraude. Hier et en plein discours, des chaînes de télévision américaines ont coupé la parole au président sortant, estimant, je cite, qu'il était en train de faire de la désinformation. Par ailleurs, un groupe Facebook créé il y a 48 heures, intitulé Stop the Deal, a été suspendu par le réseau social, un groupe qui rassemblait quand même plus de 320 000 membres. D'où la question, peut-on dire que dans cette campagne, les médias et les réseaux sociaux ont voulu la défaite de Donald Trump et vous êtes pour le moment 91% à dire oui. Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Nous sommes en compagnie de François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle, auteur du livre La méchanceté en acte à l'ère numérique, publié chez CNRS Éditions. François Jost, bonsoir.
Bonsoir Philippe David.
Bienvenue sur Sud Radio. Alors, je vous pose la première question, après vous allez échanger avec les vraies voix. Peut-on dire que dans cette campagne américaine, les médias et les réseaux sociaux, mais on va commencer par les médias, ont été neutres?
Je ne sais pas si vous faites allusion, comme vous l'avez fait tout à l'heure, à ce qui se passe pendant le dépouillement. Il me semble que ce n'est pas la même chose.
Non, je parle avant déjà dans la campagne.
Ben, non, on sait qu'effectivement, les choses sont assez claires. Il y avait Fox qui défendait quand même presque tout le temps Trump jusqu'à une période assez récente. CNN n'a pas arrêté de mettre en doute effectivement les mensonges de Trump. CNN était pour lui une sorte de sparring partner, si je peux dire, avec qui il s'opposait. Donc c'était clair qu'il y avait des médias qui étaient absolument contre Trump. Mais c'était assez équilibré, si on peut dire. Je pense que, de toute façon, Trump est passé vraiment, c'est un des présidents, l'un des premiers présidents qui est passé par-dessus les médias, puisque finalement, il parlait lui-même constamment, directement avec les gens et sans avoir besoin des médias.
Philippe Bilger.
Allez-y,
François.
Je voulais juste rajouter une chose qui est importante qu'on oublie quand on discute de la situation aux États-Unis et de ces élections, c'est qu'il y a là-bas des pubs qui permettent d'assassiner l'autre véritablement. C'est-à-dire que Trump ne s'en est pas privé. Il a fait des publicités à la télévision qui sont évidemment pour nous totalement exotique et inadmissible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer le degré de violence qu'il y a dans cette publicité.
Philippe Bilger.
Alors, François Jost, j'aurais eu tendance à interpréter cette question en la renvoyant à la France, où j'ai trouvé que les médias ont été épouvantablement partiaux à l'encontre de Trump. Mais pour rester dans les États-Unis, est-ce que, en dehors des médias sur lesquels vous vous êtes expliqué, est-ce que les réseaux sociaux ont été plus favorables à Trump ou le contraire ?
Écoutez, ça, j'aurais du mal à vous le dire. Je l'ai pas étudié précisément et ça demande un peu de recul. Je pense que quand vous avez un président qui traite et dit des choses absolument épouvantables qui sont relayées, il est évident que ça a joué un rôle. Est-ce que ça a joué un rôle pour lui ou contre lui, c'est beaucoup plus difficile à dire. Vous savez, dans l'influence des médias, c'est toujours un problème. C'est-à-dire que ça conforte ceux qui sont déjà d'accord, en général. Les autres continuent. De même, CNN a interrompu Trump ces jours-ci. Mais ça ne choque personne, si vous voulez, qui ne regarde pas CNN, quoi. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est distribué. On sait bien que CNN est contre le président, donc ça ne fait que renforcer l'opinion des gens qui sont contre Biden, et ça ne fait pas changer d'un parti à l'autre, à mon avis.
Caroline Griba.
Je ne sais pas si vous partagerez mon point de vue, mais j'ai un peu le sentiment... Mais c'est pas tellement lié forcément à la campagne, mais finalement à tout le mandat de Donald Trump, qu'il y a moins un phénomène unilatéral de la part des médias qu'une espèce de jeu un peu pervers entre les médias et Trump, qui en réalité a été orchestré par le président et préalablement par le candidat à la présidence lors de l'élection précédente, et qui a abouti finalement à ce que aujourd'hui on se pose la question de savoir si les médias sont résolument contre Trump, en tout cas en partie, ou si en réalité tout ça n'est pas entretenu dans le but avant tout de les promotionner eux-mêmes et de fabriquer de l'audience, de fabriquer du buzz. Et j'en veux pour preuve un certain nombre d'articles qui sont sortis ces derniers temps sur le sujet, sur la problématique des médias, qui indiquaient que bon nombre d'entre eux aux États-Unis étaient un petit peu embêtés finalement, que Trump ne soit pas réélu, parce que possiblement ça pourrait avoir un impact sur leur audience, un impact sur leur visibilité et sur justement cette espèce de jeu pervers qui a eu lieu pendant 4 ans entre la présidence et les médias américains.
François Jost, c'est vrai ce que dit Caroline Grima, Trump c'est quand même un sacré bon client, et puis ce « je t'aime moi non plus » qui a duré 4 ans, enfin même avant la campagne, il y a 5 ans et demi, c'est quand même une grosse perte pour les médias.
Oui, je suis absolument d'accord avec ça. le fait qu'on ait deux candidats visibles comme ça, évidemment, permet en plus de faire un vrai combat. Mais ce qui est assez curieux, c'est que dans l'histoire, on n'a pas parlé des tout petits candidats.
Oui.
Il y en avait un pour les libertariens et puis un autre pour
un écologiste.
Les écolos.
Il y avait Kanye West. On
a absolument. Oui, il y avait je ne sais plus comment il s'appelle.
Kanye West, oui. Le mari de Kim Kardashian. West, ouais. Il a fait que 60 000
absolument.
Voix. Plus de 60 000.
Il y avait aussi Kanye West. Donc il y avait d'autres petits candidats qui, chez nous, si on avait totalement gommé à ce point-là les petits candidats, on aurait dit que c'était un scandale. Donc on voit bien que, pour aller dans le sens de ce que vous dites, que ce qui comptait ici, c'est de trouver deux personnes qui s'opposaient. On fait pareil en France. En général, on essaye de ne pas parler des autres candidats. Enfin, les médias ne parlent peu des autres candidats jusqu'au moment où on est tellement lassé d'être un contre un qu'on ajoute un troisième homme. C'est devenu le troisième homme.
C'est vrai.
Mais effectivement, Trump, si vous voulez, aussi, il suscitait l'intervention des médias, bien sûr, pour faire de l'audience, mais aussi parce qu'il a dit des dizaines de milliers de mensonges et que quand même, il est difficile de l'admettre. Moi, je pense que ce qui est arrivé là, enfin, on va peut-être en reparler, mais ce qui est arrivé dans ces Philippe. Interruptions, c'est effectivement très, très problématique parce que ça va contre la liberté d'expression qu'il y a normalement aux États-Unis. Et en même temps, Trump a posé quand même un cas tout à fait inédit, c'est-à-dire quelqu'un qui dit un mensonge à chaque fois qu'il parle. Donc, dans la mesure où on a tous l'idée quand même qu'il faut lutter contre les fake news, est-ce que on peut pas donner raison à ces médias qui ont interrompu ou qui ont mis des bandeaux sous l'image en disant « attention, c'est pas vrai ».
Alors, je vous coupe avant de donner la parole à Chloé Nabédian. Sous George Bush père, il a été président de 88 à 92, il y avait l'équivalent du Yves Mourouzi français qui était Dan Rather, qui faisait le CBS ouais. Evening News, qui était une star aux États-Unis. Il y avait une affaire assez grave pour le président et le parti républicain. Dan Rather lui pose une question, il répond à côté. Il lui repose la ouais. question, il répond à côté. La troisième fois, l'autre répond encore à côté. Il dit « Vous ne voulez pas répondre à mes questions. Au revoir, monsieur le président. » Quelque chose qu'on n'imagine même pas en France. Donc, ce n'est pas la première fois qu'un président en exercice a la parole qui est coupée. Chloé Nabédian.
Alors, effectivement, les médias, on le voit, ont une incidence inévitable puisqu'ils sont extrêmement regardés et suivis là-bas. Moi, en revanche, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait qu'ils ont eu une influence sur l'élection en elle-même par rapport à Donald Trump, tout simplement parce que, pour moi, ils ont fait vraiment leur devoir de journaliste. C'est qu'à un moment, effectivement, il a dit tellement de mensonges et j'étais la première atterrée cette nuit lorsque j'entendais le discours de Donald Trump qui n'arrêtait pas, en fait, de remettre en question le vote légitime des Américains parce qu'il était vraiment question de ça. Pour lui, c'était juste, en fait, les votes physiques qui ont eu lieu le 3 novembre qui comptaient parce que c'était son électorat, lui, qu'il avait finalement incité à venir sur place. Et tout l'électorat qui avait été motivé par les démocrates de voter par correspondance, tout ce vote-là, finalement, ne devait pas exister. Et à un moment, c'est vrai qu'il est essentiel et nécessaire. Et même Fox News, qui pourtant a été le premier à défendre ouais. Trump, s'est mis finalement contre lui cette fois-ci parce que là, on touche vraiment à l'essence même.
Et Fox News, qui est contre les républicains, c'est exceptionnel.
Et c'est vraiment exceptionnel. Donc, ça montre vraiment ouais. qu'il a touché là quelque chose de très problématique. Il a touché vraiment la démocratie américaine. Et finalement, le couper en plein milieu, ça peut choquer. Peut-être qu'effectivement, il aurait fallu attendre et après détricoter
mais
tout ce qu'il
c'est
avait
pas
dit.
Mais la première fois. Hein.
Mais comme, effectivement, c'est pas la première fois. Mais là, ça devenait nécessaire parce qu'à un moment, on a l'impression qu'il était un peu dans une espèce de pétage de plomb où il n'arrivait plus à se contrôler. Il essayait, coûte que coûte, de sortir la tête de l'eau en disant on nous vole la victoire pour essayer de mettre ça en tête aussi auprès des Américains.
François Jost.
Ah ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que, de toute façon, l'influence des médias c'est un problème très compliqué. On n'est pas tout à fait sûr, si ce n'est que les médias cadrent les débats, qu'ils polarisent autour d'un certain nombre d'informations. Mais je veux dire, savoir qu'ils ont appelé, qu'ils ont fait voter quelqu'un simplement parce qu'ils ont dit, j'en suis pas sûr. Je pense qu'effectivement, on est dans un cas totalement inédit, et je suis d'accord avec Chloé Nabédian, c'est-à-dire que quand vous avez des mensonges qui sont proférés constamment, il est normal que les journalistes fassent leur métier et le signalent. On peut regretter très souvent en France qu'effectivement, dans des débats opposant des hommes politiques, il faut y attendre le lendemain ou plusieurs jours après pour voir si on lit un journal sérieux que tel ou tel a dit une bêtise ou un mensonge. Donc c'est vrai que on est dans une situation totalement inédite où en France ce sont les hommes politiques qui quittent le plateau parfois, comme oui. Dupont-Aignan ou comme quelques-uns, il y en a eu pas mal qui ont quitté les plateaux, mais c'est pas les journalistes qui arrêtent l'homme politique. Là on a quelque chose d'inverse.
Il ne dit jamais de mensonge ni de bêtises, Philippe Bilger.
Non, mais François Jos, j'aimerais introduire un peu de dissidence dans ce consensus.
Vous êtes un vrai révolutionnaire, non, vous êtes le Che Guevara des vrais
Anti-Trump. Aujourd'hui. Anti-Trump. D'abord, les mensonges, vous parlez évidemment de la manière dont il conteste un résultat qui semble aujourd'hui acquis, mais vous ne parlez pas, je suppose, de son mandat lui-même. Parce que
c'est censé de tout ce qu'il a dit pendant son mandat, où il y avait des mensonges tous les jours.
Oui, oui. Écoutez, alors là, François Jos, je vous trouve bien sévère à l'encontre de ce président qui, paradoxalement, avec cette élection, voit un petit peu son blason redoré. Mais le deuxième point, vous croyez que des médias américains, face à des politiques qui ont souvent dit des bêtises, même aux États-Unis, se serait permis d'agir comme ça avec eux? Et troisième élément, et pardon, je suis trop long, est-ce que c'est véritablement un jeu pervers entre les médias américains et Donald Trump, ou est-ce qu'au fond, les médias américains ne lui ont pas rendu la monnaie d'une pièce parce qu'il les a totalement méprisés?
François Jost, après les trois questions de monsieur l'avocat général Philippe Bilger, on va vous laisser un peu de temps pour préparer vos trois réponses, parce qu'on doit faire une courte pause. Vous êtes bien sur Sud Radio, 18h42. Et pour le moment, vous êtes 91% à dire oui. Les médias et les réseaux sociaux ont voulu faire peur de Trump. Vous réagissez, le 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Grima, Chloé Nabédian et on a avec nous François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle, auteur du livre « La méchanceté en acte à l'ère numérique » pour ce débat sur est-ce que les médias et les réseaux sociaux ont voulu faire perdre Donald Trump. Je reviens, je vais synthétiser parce qu'il y a eu une courte pause.
C'est surtout, François Jost, c'est surtout la réponse à ma dernière question.
Ah bah c'est très bien. Alors on va répéter la dernière question. Allez-y.
Non, elle est très simple. Est-ce qu'il s'agit d'un jeu pervers entre Trump et les médias américains, ou bien au contraire les médias ne l'ont-ils pas traîné dans la boue parce qu'il les a répudiés?
Écoutez, là où je suis absolument d'accord avec vous, c'est que chez Donald Trump, il y avait une haine des médias contre laquelle je suis absolument. Je viens de faire un livre qui s'appelle « Médias sortir de la haine », qu'on peut avoir pour eux. C'est vrai qu'ils m'ont fait payer ça. Mais le vrai problème, à mon avis, c'est que Trump, c'est pas seulement quelqu'un qui a menti, c'est quelqu'un dont on a dit qu'il était dans la post-vérité. Hein. C'est-à-dire que quand il a dit la nuit dernière une phrase, on n'a pas relevé littéralement ce que ça voulait dire. Il a dit « Frankly, I won ». Donc franchement, j'ai gagné. C'est là vous êtes dans un raisonnement qui n'est plus rationnel, c'est-à-dire qu'on peut pas dire on peut pas dire franchement j'ai gagné. Vous avez gagné ou pas, mais c'est pas vous qui le dites, c'est décidé par des critères objectifs. Et donc on se trouve devant quelqu'un qui pense que la vérité, comme il avait parlé à un moment, dans son entourage, on avait parlé d'alternative facts. C'est-à-dire, il pense qu'on peut contourner les faits et dire autre chose sans aucune légitimité. Donc voilà, je pense que là, les médias sont obligés d'intervenir d'une façon différente que s'ils mentaient simplement.
On part au 0826-300-300, direction le Gard. Bonsoir Fred.
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir.
Alors vous en pensez quoi? Est-ce que les médias et les réseaux sociaux ont joué contre Trump? C'est vrai que les médias n'ont pas été tendre avec lui, et même les réseaux sociaux qui ont supprimé un groupe qu'ils soutenaient.
Évidemment, et tout était fait pour que Joe Biden, en fait, tout est fait pour qu'il arrive à la présidentielle, à la présidentielle, parce que on voit dans les articles de presse, et on peut le voir même de façon en France, certains médias ont amené Macron en fait au pouvoir, et ça se passe pareil aux États-Unis. Le système est le même partout, hein, je veux dire, dans cette société occidentale, nous avons en fait des médias qui ont une puissance. Ils ont une puissance, mais en plus de ça, c'est dangereux de faire ce qu'ils ont fait, de couper trois fois l'allocution de Trump. C'est que en fait, dans les sociétés démocratiques, on a les droits fondamentaux, qui est en fait la liberté d'être informé, quoi, le droit d'être informé, et surtout de dire même ce que l'on pense, quoi. Et ça, c'est très dangereux pour l'Amérique et pour toutes les sociétés occidentales, parce que ça va entraîner des frustrations et de la violence.
Vraie question. Merci Fred Bugard. Je vais faire réagir François Jost pour une réponse rapide. Quand on voit comment les médias français se sont comportés au moment du traité constitutionnel européen, où ils étaient tous à dire qu'il fallait voter oui, ou en 2017, où ils disaient tous qu'il fallait voter Emmanuel Macron, est-ce qu'on n'a pas le même problème en France de monocolore, des médias monocolores?
Non, vous avez raison sur le fait que...
Très court. Hein.
Comment vous savez, très court. Ben, je citerai aussi la crise de 1995 pour la réforme de la sécurité sociale, où les journaux titraient Juppé, formidable, etc. Et le lendemain, il y avait des millions de gens, ou des centaines de millions de gens dans la rue. Donc effectivement, je crois surtout que parfois, l'enfermement dans un studio fait qu'on ne voit plus bien la réalité et qu'il se crée des vrais divorces entre les deux. C'est ce qui se passe pour Biden... Et aussi Trump, où on a cru que Trump ne gagnerait pas parce que finalement on ne va pas avoir les bonnes personnes qui votent Trump.
Merci beaucoup François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle, auteur du livre « La méchanceté en acte à l'ère numérique et médias, sortir de la haine, verdict, vous êtes 91% à dire oui. L'USA, les médias et les réseaux sociaux ont voulu faire perdre Donald Trump ». Tout de suite, le clin d'œil des vraies voix est dédié à ces incorrigibles Français qui, à l'annonce du confinement, se sont rués sur le papier toilette. J'en ris.
Ils ont le droit de s'en ruiner aussi.
Dans les magasins, dans le Pas-de-Calais, un pâtissier a voulu leur rendre hommage à sa manière.
Oui, un pâtissier qui a voulu rendre hommage aux Français, eh bien, en créant une toute nouvelle pâtisserie en forme de, devinez quoi, rouleau de papier toilette. Bonsoir à vous, Samuel De Jong.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes pâtissier dans la ville des Attaques, c'est dans le Pas-de-Calais. La photo de votre création fait le tour des réseaux sociaux. Hein. Et le pire, c'est que ça a l'air vraiment appétissant. En plus, c'est quoi la recette d'abord, dites-moi?
Alors la recette, c'est composé d'une meringue noisette, un cœur rocher praliné et une mousse lactée caramel.
Et ça fait vraiment envie, effectivement, parce que ceux qui aiment la meringue, la noisette, de la praline, moi, il y a tout ce que j'aime, effectivement.
Donc, c'est papier toilette usagé.
Voilà, précisément.
J'en déduis.
Oui.
C'est ça.
Exactement. Mais quoi qu'il en soit, comment ils ont réagi, vos clients, monsieur De Jong?
En fin de compte, tout a débuté mardi, en fait. Ouais. J'ai commencé, c'était un peu calme en boutique, je me suis amusé à en faire 20 seulement, puis je l'ai posté sur ma page Facebook.
Ouais.
Et ça a pris une ampleur phénoménale, quoi, je veux dire. Je veux dire, les 20 que j'ai fait en une demi-heure de temps, tout le monde s'est rué dessus.
Et ça a bien marché, quoi. En gros, ça a bien marché, ça a fait rire vos clients. L'idée, vous l'avez eue à partir de l'Allemagne, c'est ça? C'est une photo de pâtissier allemand?
C'est bien ça, ouais.
Racontez-moi.
Pareil, sur Facebook, j'ai vu une vidéo d'un Allemand, c'était durant le premier confinement, en fait.
Ouais.
Et il avait fait ça, et puis ben, pour redynamiser un peu le commerce, ça, c'était quand même un peu calme en boutique, quoi.
C'est ça.
Au final, il est cartonné grâce à ça, en fait.
Eh bien, c'est ce qui vous permet, vous, qui de toute façon nous fournissez des produits de première nécessité, c'est tant mieux que vous restiez ouvert. Eh bien, c'est ce qui vous permet en plus d'attirer davantage les clients qui ont le droit de se déconfiner pour venir chez vous, Caroline.
Et la vraie question, elle porte quel nom, cette pâtisserie?
Ah oui!
Alors, la question, c'est le PQ.
Ah, le PQ, voilà.
Voilà.
Donc, on tout va se ruer sur le PQ chez vous.
Exactement.
Ce week-end, avec grand plaisir.
Excusez-moi, quel est le prix du PQ dans votre pâtisserie? Parce que c'est quand même important.
3 euros la pièce.
3 euros pièce.
C'est un peu cher pour du PQ. Hein.
Effectivement. Et bien, pour se régaler, c'est luxe, hein. C'est parfait.
Voilà. Mais pour des pralines et pour de la meringue et pour de la noisette, c'est pas cher.
Absolument.
Quand même. Donc, ça fait plaisir. C'est pour tous les gourmands de France et de Navarre. Merci beaucoup, Samuel De Jong. On va vous laisser parce que vous êtes en plein travail en plus, et c'est roche en ce moment pour vous. Donc on vous remercie, encore bravo hein, tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Pour vous retrouver la pâtisserie De Jong, D-E-J-O-N-G-H-E, De Jong père et fils, c'est aux Attaques, c'est dans le Pas-de-Calais. On vous passe une excellente soirée avec toute l'équipe d'ailleurs des Vraies Voix de Sud Radio.
Et vous pouvez aller voir sur Facebook, le PQ est particulièrement appétissant, je dois le reconnaître. Là c'est le gourmand qui parle, vous êtes bien sur Sud Radio, 18h53, les Vraies Voix, on se retrouve dans quelques instants.
Le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien, présent. Sud Radio Osez Investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant logement d'Osez Investir et vous nous emmenez cette semaine du côté de Nantes, ville de plus de 300 000 habitants située à 50 km de l'océan Atlantique.
Oui Thomas, nous recevons effectivement Michel Kozik, directeur d'Orpi foncièrement vôtre à Nantes.
Bonjour Michel Kozik.
Alors, comment se porte le marché immobilier nantais, Michel ?
Bonjour Thomas, bonjour Bernard. Ben, écoutez, on peut dire qu'il se porte bien, il se porte même très bien. Ça fait de longs mois maintenant qu'on a une très bonne demande, beaucoup de candidats à l'achat. Et malgré le confinement, ça a repris tout aussi fort au printemps, à la sortie du printemps.
Et alors, habituellement, qui pousse la porte de votre agence ?
Eh bien, un peu tout le monde en ce moment, en fait, et c'est ce qui est réjouissant. On n'a pas vraiment d'acquéreur type, on a plusieurs profils. Les primo-accédants sont là, alors souvent avec une aide des parents pour financer les biens de nos jours. Également les propriétaires d'appartements qui veulent passer à de la maison, mais aussi des gens qui viennent d'autres villes pour arriver sur Nantes, puisque nous sommes, on a la chance d'être sur une ville très attractive.
Et si on parle prix, quelle est la tendance des prix en ce moment ?
Alors, les prix ont connu une hausse régulière, on va dire, sur les deux dernières années, de l'ordre à peu près de 10 à 15% par an. Ça semble s'assagir depuis la rentrée, donc on va peut-être aller vers une stabilisation des prix maintenant.
Michel Kozik, avez-vous un ultime conseil à donner à nos auditeurs qui voudraient investir dans votre ville ?
Oui, alors si je peux leur donner un conseil, c'est déjà de bien préparer en amont leur projet d'achat. Bien sûr, les critères essentiels pour eux, mais également de bien faire les démarches bancaires en amont pour connaître leur budget et puis pouvoir se positionner très rapidement si un bien les intéresse, puisque nous restons sur un marché très fluide.
Merci Michel Kozik d'être passé du côté d'Osez Investir. Et je rappelle que vous êtes le directeur d'Orpi foncièrement vôtre à Nantes. Quant à vous Bernard, je vous dis à la semaine prochaine pour mettre une nouvelle ville à l'honneur.
Sud Radio Osez Investir.
Avec le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Retour des vraies voix avec Chloé Nabédian, Caroline Grima et Philippe Bilger. Alors, vous êtes prêts pour ce week-end, les vraies voix ?
Bah, ah, week-end confiné. En santé, mais quel week-end ?
La question, c'est oui, à quoi ?
Vous avez prévu quelque chose ? Je ne sais pas, commander du PQ à notre ami pâtissier par Internet.
Vous avez prévu de faire le ménage ou le repassage ?
Effectivement, c'est passionnant. Alors, vraiment, ça, c'est...
Alors, bon week-end à tous les trois. Merci de suite, les vraies voix qui font bouger la France avec Jean-Marie Bordry. Quel est le menu, mon cher Jean-Marie ?
Allez, de 19h à 20h, dans un instant, place aux voix du système D, comme tous les vendredis soirs, nos experts fiduciales qui donnent un coup de main à tous les artisans, les commerçants, les indépendants ce soir au programme. Est-ce qu'il est encore temps pour les commerçants qui sont fermés de souscrire un prêt garanti pour l'emploi ? Vous verrez que oui, sous certaines conditions. On va en parler dans quelques instants, tout de suite après les actus qui font bouger la France. Alors on va mettre au-delà toute connivence politique, un peu loin de ça, au-delà de vos préférences aux uns et aux autres, qui la France a intérêt à voir à la Maison Blanche entre Trump et Biden ? Qui serait le plus utile pour la France ? On va se poser la question avec Maxime Thiébaud et Tom Conan, nos deux débatteurs.
Eh bien écoutez, c'est le menu, il est très alléchant sur Sud Radio à partir de 19h. Restez bien en notre compagnie.